Parole. Le podcast d'entretien d'Outre-mer la première, présenté par Cécile Baquet.
Raphaël Confiant, nous nous retrouvons dans les bureaux de votre éditeur parisien, Le Mercure de France. Vous venez de sortir un nouveau roman intitulé Le bal de la rue Blomet, dont nous parlerons dans notre troisième épisode. Dans le premier volet de ma parole, nous avons évoqué vos années d'enfance et d'adolescence au Lorrain, puis à Fort-de-France en Martinique. Après le bac littéraire, vous avez intégré l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. Est-ce que vous vous êtes rapidement habitué à votre vie d'étudiant loin de la Martinique, à des milliers de kilomètres ?
En fait, j'ai eu un choc en arrivant à Aix-en-Provence. Un vrai choc. Parce que personne ne me considérait comme un noir, mais comme un maghrébin. On me demandait, mais vous n'êtes pas marocain ? Alors moi, je ne connaissais pas les Marocains, moi. Et le racisme anti-maghrébin était 10 fois plus fort que contre les Noirs. Alors mes copains antillais qui avaient la peau noire, ils me disaient, mais non, c'est bien, nous, on n'a aucun problème, toutes les filles nous courent après. Et ça vous fait un choc quand même, parce que passez votre vie à dire, non, je ne suis pas marocain. J'ai des tas d'épisodes comme ça. Vous êtes dans le train et quelqu'un sort du saucisson, sympa, et puis il me dit, désolé, en tant que musulman. Ou alors je suis avec un Antillais en train de l'acheter à Aix, hein, dans un kiosque. Le Monde arrivait l'après-midi à Paris. Et donc, j'allais toujours dans le même kiosque acheter Le Monde. Et la dame me balançait la monnaie. J'étais avec un Antillais très noir de peau, et nous parlions créole. Elle me dit, vous êtes pas arabe ? Alors, je dis, non, je suis Antillais. À partir de ce jour, elle me donne la monnaie. Alors les îles, le soleil, machin, etc. Et ça c'est une situation très étrange. Parce que vous êtes perçu comme quelqu'un que vous n'êtes pas.
Après vos études à Sciences Po, à Aix-en-Provence, vous avez commencé à préparer le concours de l'ENA pour la plus grande fierté de votre père, qui rêvait de vous voir préfet. Et puis au bout de 3 mois, vous renoncez. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, oui, j'ai une bourse quand même, pour faire la prépa ENA. Il faut dire qu'à Aix, il y avait quand même des étudiants qui sont devenus célèbres. Hein. La dame qui dirige le Fonds monétaire international, comme Christine Lagarde.
Vous étiez en cours avec elle ?
Oui. Il n'y avait que 5 instituts d'études politiques dans toute la France. 5. Et bon, c'était les fils de la haute bourgeoisie, pas seulement française. Hein. J'ai une amie, enfin une collègue, qui est devenue présidente de l'île Maurice quand même. Hein.
Et qu'est-ce qui vous a fait renoncer, vous ?
Mais ce qui m'a fait renoncer, c'est la découverte de Fanon. J'avais jamais lu Fanon. Et puis le fait, je me suis dit, bon, ben, puisqu'ils me prennent pour un arabe, je vais m'intéresser au monde arabe. J'avais aucune idée, je connaissais pas le monde arabe, moi. Et je dis, mais tiens, mais c'est pas mal, c'est super. Bon, je vais aller quand même vivre en Algérie, voir quelques temps, et, mais zut, mais tu as une bourse pour faire l'ENA, ça va poser problème. Alors, sur un coup de tête, je suis parti, mais il y avait des Antillais qui vivaient là-bas, parce que pendant la guerre d'Algérie, ils avaient choisi d'être du côté du FLN, et non pas de l'armée française. Donc, notamment un écrivain qui s'appelle Daniel Boukman.
Et combien de temps vous êtes resté en Algérie ?
Alors, 1 an et demi, 2 ans.
Qu'est-ce que vous y avez fait et découvert ?
Alors, j'ai découvert quelque chose qui m'a absolument sidéré, l'espèce d'ostracisme anti-noir. Pas à mon égard, hein, parce que les gens étaient persuadés. Alors, je sors de force, il y a le racisme anti-arabe. Et comment ça s'est manifesté ? Le président Boumédienne, Ouari Boumédienne, distribue à tour de bras des bourses à des étudiants du Mozambique, d'Afrique du Sud, donc le campus sur lequel j'étais.
Donc vous étiez étudiant là-bas ?
Non, je n'étais pas étudiant, mais Daniel Boukman m'avait trouvé une chambre à l'université. Donc j'enseignais l'anglais dans une société nationalisée, à des cadres, hein, bon. Parce que j'avais fait Sciences Po et anglais. Donc j'habitais dans cette cité où il y avait des tas d'étudiants du monde, de partout, d'Africains. Et souvent, j'entendais les étudiants algériens dire, ouais, ces types, on leur donne une bourse, c'est des gros feignants, des soulards, ils aiment la bière, et en plus, ils nous piquent nos femmes, et puis en plus, leur bourse est plus élevée que le SMIC algérien. Ouais, c'est noir, ils emmerdent les gens, etc. Enfin, ils sortent des trucs racistes sans se douter de quoi que ce soit. Alors, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de relativiser pas mal de choses parce que l'identité, c'est quelque chose que vous croyez fixe et immuable, mais c'est pas vrai.
Mais c'était une période intéressante, non? L'Alger post-indépendance.
J'ai vu des choses, ça s'appelait la Mecque des révolutions, l'Alger, hein, parce que le président du Frelimo, qui est le Fonds de libération du Mozambique, disait, quand on est musulman, on va à la Mecque, quand on est révolutionnaire, on va à Alger.
Donc vous étiez déjà révolutionnaire?
Alors, j'étais pas révolutionnaire, mais j'étais, alors, à la grande fureur de mon père, parce qu'on l'a obligé à rembourser les mois de bourse, hein, que j'ai eu. Il m'a dit, ouais, ben, tu vas les rejoindre, mais reste avec eux. Enfin, donc, il n'y avait pas de lettre, d'internet, c'était par lettre. Alors, il m'a dit, bon, ben, reste avec tes amis révolutionnaires. Et il y avait une rue carrément où il y avait le siège de l'OLP, des Palestiniens, la Irish Republican Army, l'IRA, le Fonds de libération du Tchad, enfin bon. Et même des Black Panthers. Les types avaient détourné un avion, les Black Panthers. Ils sont allés à Alger où ils ont été accueillis, on leur a donné une villa et tout.
Et dans ma parole, on a interviewé Georges Pollangevin qui avait été leur avocate avec Maître Manville.
Ah oui, voilà, ben, c'est ça. Ben, ces Black Panthers, je les voyais évoluer à Alger avec leur manière de noir américain qui était un peu pas trop bien apprécié du peuple, parce que je sais qu'ils avaient une ville là, sur les hauteurs d'Alger, qui s'appelait, ce quartier s'appelle El Biar, et c'est un quartier très bourgeois. Et ces types mettaient leur musique noire américaine à fond, notamment, comment il s'appelle celui qui chante I'm a sex machine, etc.
James Brown.
Voilà, à fond. Alors les voisins algériens bourgeois, puisque El Biar, sont allés frapper, leur ont dit, écoutez, bon, c'est bien, mais c'est ce que vous pouvez être un peu moins bruyant. Ils ont envoyé balader. Alors les voisins ont appelé les flics. Et quand les flics sont venus, ils ont cassé la gueule aux flics, les Noirs américains.
Ah oui, ça rigolait pas.
Je me suis dit, mais on va les expulser? Absolument pas, c'est des frères révolutionnaires. Ils ont cassé la gueule. Donc, vous voyez tout ça. Et puis des faux révolutionnaires aussi. Parce que comme l'Algérie distribuait des subventions aux révolutionnaires, je me rappelle du docteur Abbasidi qui dirigeait le Fonds de libération du Tchad. C'est un alcoolique fini, c'est-à-dire qu'il vous invitait chez lui, il finissait une bouteille de whisky ou de machin dans un pays musulman, enfin bon.
C'était assez folklorique en fait.
Pas totalement folklorique, parce qu'il y avait quand même les gens d'Afrique du Sud, l'ANC, qui étaient quand même des gens très sérieux. Il y avait l'IRA, j'ai connu des gars de l'IRA qui étaient vraiment... Mais à côté, il y avait des farceurs, c'est toujours comme ça, des gens qui se font passer, y compris des Antilles, hein. Certains ont inventé un fonds de libération des Antilles, ont eu de l'argent de Boumediene, sont allés en Libye où Kadhafi venait de prendre le pouvoir, lui ont soutiré de l'argent, ils sont revenus aux Antilles où ils ont construit des villas. Ils ont détourné l'argent, parce qu'il n'y avait pas de fonds de libération des Antilles. Donc c'était quand même une époque assez exaltante, mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'une nouvelle bourgeoisie était en train de se mettre en place. Et qu'elles se comportaient exactement comme les colons qu'ils avaient combattus.
Dans les années 70, vous passez donc une maîtrise d'anglais et vous devenez professeur d'anglais de 1977 à 1996. Où avez-vous enseigné? Est-ce que ça vous plaisait d'être prof d'anglais?
Non, du tout. J'avais déjà eu cette expérience de prof d'anglais dans la société nationalisée à Alger. Je me suis dit, mon petit vieux, tu es pas fait pour... De toute façon, j'avais pas envie d'être prof parce que j'avais fait Sciences Po, c'était pour travailler dans la diplomatie. Je me disais, bon, tu seras consul en Malaisie, c'est génial, en Thaïlande, enfin, pourquoi pas, dans le Pacifique. Bon, j'avais des idées. Donc, bon, j'ai enseigné l'anglais en lycée pendant 16 ans. Et à l'université, pendant 22 ans, j'ai enseigné de la linguistique, la sociolinguistique, des trucs comme ça, la littérature. Mais ma vocation n'a jamais été d'être prof. Alors je le faisais à contre-cœur, sérieusement. Hein. Alors personne ne s'en doutait. Je rencontre encore des anciens élèves, on s'est dit, monsieur, j'ai beaucoup apprécié. Et je me dis, si vous saviez comment c'était pénible pour moi de me lever et d'aller faire ce boulot que j'aime pas. Mais j'ai passé ma vie à faire ce boulot que je n'aimais pas. Mais je ne le détestais pas non plus. Mais bon, vous savez, on ne fait pas ce qu'on veut toujours dans la vie. Hein, donc, bon.
En parallèle à votre métier de professeur, vous commencez en 1977 à écrire des poèmes, puis des romans en créole. Et puis en 1988, vous passez au français. Qu'est-ce qui vous a décidé?
Eh bien, ce qui m'a décidé, c'est que je n'étais pas considéré comme un écrivain, après 5 livres en créole. J'aime raconter cette anecdote qui me touche beaucoup, qui est personnelle. Chaque fois que je faisais un livre en créole, je le portais à ma mère. Elle me disait merci. Et lorsque j'ai fait mon premier livre en français, elle a pris entre les mains Le Nègre et l'Amiral, ça s'appelle. Et elle m'a dit du fond du cœur, avec tout son amour, sans ironie aucune, « Enfin, tu es un écrivain. » Elle ne savait pas qu'elle venait de me planter un poignard dans le cœur, parce que j'ai réalisé soudain que les 5 livres à créole que j'avais fait pour elle, c'était rien, quoi. Mais elle l'a fait sans méchanceté. Parce que bon, un livre à créole, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Elle m'a dit « Enfin, tu es un écrivain. » Bon, c'était difficile pour moi parce que j'étais un peu isolé. J'étais un peu méprisé, même. Certaines personnes me disent, mais tu es complètement fou d'écrire. Et personne ne va lire ça, mais on ne sait pas lire ça. Et puis, c'est même pas enseigné à l'école. Enfin, c'est n'importe quoi. Et un jour, ça m'a lassé. Et Patrick Chamoiseau...
Qu'on a interviewé dans Ma Parole aussi.
Oui. Est venu chez moi un jour. Et il me dit, mais bon, c'est bien d'écrire en créole. Tu en as déjà fait 5. Est-ce que, peut-être par hasard, ça serait bien peut-être que tu écris en français. Je lui dis, mais j'ai quelques pages là. Et il les lit, il me dit, il faut absolument que tu envoies ça, c'est pas mal et tout. À un éditeur. Moi, je ne connaissais aucun éditeur à Paris, quoi. Mais je vais te donner les adresses. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. Rien, ça se passait par la poste. Et donc, j'envoie à 11 éditeurs. Et tous les 3 jours, je reçois une lettre. La lettre typique, hein. Votre ouvrage n'entre pas dans nos collections, nous sommes désolés, etc. Et j'oublie le nombre d'éditeurs à qui j'ai envoyé. Et j'ai une espèce de soulagement. Je me dis, ah, je ne trahirai pas le créole, ils ont tous refusé. J'avais oublié qu'il y avait un dernier. Un jour, je vais dans ma boîte aux lettres et je vois cette espèce de petite enveloppe bleue, minuscule, qui n'existe plus. Télégramme. Et quand vous voyez ça, c'est un décès. Parce que sinon, les gens envoyaient des lettres. Je dis, mais qu'est-ce qui est mort dans ma famille? J'ouvre ça et je vois Yves Berger, le grand Manitou, décédé aujourd'hui des éditions Grasset, qui me dit, et aimez votre manuscrit, stop, veuillez m'appeler, stop, tel numéro, stop. Alors moi, je l'appelle, 2 jours après quand même. Il me dit, oui, d'accord, mais ce livre, là, de café, c'est quand même difficile. Vous auriez pas un autre plus simple là, pour un premier roman? Et moi, je sais pas ce qui me passe par la tête. Je raconte n'importe quoi. Je dis, oui, j'ai un autre dans mes tiroirs. Il me dit, c'est quel thème? Voilà, pris de panique, je raconte n'importe quoi. La Martinique pendant la Deuxième Guerre mondiale, il m'a dit « Banco, je prends, je vous envoie le contrat ». Et après avoir accroché, il n'y avait pas de portable à l'époque sur le téléphone fixe. Je dis « Mais tu es complètement cinglé, quoi. Tu racontes au type que tu as un truc dans les tiroirs, c'est pas vrai. Une époque, c'était complètement, c'est venu tout à fait par hasard, en fait. Comment tu vas te démerder parce que dans 6 mois, tu... » Et je me suis mis au travail, et pour répondre précisément à votre question, j'ai senti un plaisir intense d'écrire en français.
Et alors ce livre, ce roman, ce premier roman en français paru en 1988 chez Grasset, il s'intitule Le Nègre et l'Amiral. Il évoque avec votre style inimitable la période de la Seconde Guerre mondiale en Martinique et la mainmise de l'amiral Robert envoyé par Pétain pour y faire régner l'ordre vichiste. Est-ce que votre famille, vos proches avaient été marqués par cette période? Vous aviez
toute la Martinique a été marquée. Parce que quand cet amiral Robert a été nommé gouverneur par Pétain. Pétain avait quand même eu l'idée intéressante de faire toute la flotte française fuir le Havre. Et toute la flotte française s'est réfugiée dans la rade de Fort-de-France. Donc des immenses bateaux, le Jeanne d'Arc, le Barfleur, etc. Avec 7000 marins quand même. Donc Hitler n'a pas pu le mettre la main sur la flotte française. Et il a aussi envoyé tout l'or de la Banque de France. 350 kilos d'or à bord de ces bateaux. Et cet or de la Banque de France a été stocké dans un fort en Martinique qui s'appelle le Fort de Zé. Mais il a fait ces 2 gestes un peu patriotiques et c'était fini. Et après, bon, comme on sait, il s'est un peu accoquiné avec le régime nazi. Il a instauré, l'amiral Robert, un régime pétainiste. Alors les gens défilaient dans les rues, non pas « Maréchal, nous voilà », mais « Amiral, nous voilà ». Chantaient toutes les chansons, machin. Et les Américains ont dit « Mais très bien, vous êtes vichiste, vous êtes pétainiste, aucun problème. On encercle la Guadeloupe et la Martinique de destroyers et pas une marchandise n'entrera. » Donc pendant la guerre, mes parents m'ont raconté qu'ils étaient obligés de faire du sel en chauffant de l'eau de mer, de l'huile avec de la noix de coco, des chaussures avec des vieux pneus de camion, enfin, aucune marchandise n'entrait. Alors, la canne à sucre permet de faire de l'essence. de l'éthanol. Donc, quand même, les voitures pouvaient rouler. Enfin, les rares personnes qui avaient des voitures. Mais c'était un régime qui, dans l'imaginaire des Martiniquais, est resté comme une période très dure. Mes parents disaient souvent à nous, les enfants, tu veux pas manger ta soupe? Mais tu sais, si le temps de l'amiral Robert revient, ça sera pire que nous. Hein. Et puis, nous racontait comment c'était difficile.
En 1989, avec deux autres intellectuels martiniquais, Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé, vous écrivez un essai intitulé « L'éloge de la créolité ». Certains ont estimé que vous tuiez le père, à savoir Aimé Césaire. Est-ce que c'était votre objectif ?
Non, pas du tout, non. C'est-à-dire que notre génération n'était plus dans la revendication de la négritude que nous considérions comme acquise, telle qu'il fallait que la négritude vienne. Parce qu'il y a eu une diabolisation pendant des siècles de tout ce qui était africain chez nous, de la couleur noire d'abord. Et Césaire est venu et a revalorisé l'image de l'Afrique, de la poule noire, de toutes ces choses. Mais il l'a fait dans les années 30, 40, 50, quoi. On ne peut pas passer sa vie. Donc ma génération, quand elle est arrivée, elle s'est dit, mais bon, on est dans un autre monde, on n'est plus dans le monde colonial. Césaire a vécu à l'époque coloniale. D'ailleurs, c'est lui qui a fait passer la loi qui a transformé les Antilles en département français en 1946. Mais nous, on n'a pas vécu cette période-là. Et surtout, on s'est rendu compte d'une chose, mais finalement, le phénomène de mondialisation dont on parle aujourd'hui, mais nous sommes les premiers aux Antilles à l'avoir vécu. Il y a trois siècles. Parce que tout le monde... aujourd'hui, parle de cette vie où tous les peuples du monde sont obligés de cohabiter ensemble, etc. Mais cette cohabitation, elle s'est faite dans la violence, bien sûr. Hein. L'esclavage, la déportation, etc. Mais quand même, de notre culture, on peut tirer des éléments qui peuvent être utiles pour l'actuelle mondialisation, que nous considérons comme une deuxième mondialisation, la première. Donc nous avons écrit ce manifeste. Nous l'avons d'ailleurs lu dans un festival littéraire antillais dans la Seine-Saint-Denis, je ne sais plus dans quelle ville, sans idée d'en faire un manifeste. Ils avaient invité, alors on s'est dit, bien, on va écrire un truc, on l'a écrit.
C'était spontané, en fait.
Oui, bon, mais ça correspond à une demande sociale, enfin, je ne sais pas pourquoi on l'a écrit, mais à aucune idée, à aucun moment on ne voulait en faire un manifeste. Et quand nous l'avons lu, ça a provoqué dans ce festival certains grognements parce que chacun avait droit à 15 minutes. Et nous, on l'a lu, ça a pris une heure ou je sais pas plus. Et les organisateurs nous ont dit, bon, vous exagérez un peu. Et puis quelques temps après, rentrant en Martinique, on s'est dit, mais pourquoi pas le publier ? Chamoiseau l'a publié à Gallimard, proposé à Gallimard, pardon. Et Gallimard a accepté. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une diffusion qui nous a dépassés. Il est traduit en japonais, en allemand. On n'avait jamais imaginé qu'il y aurait eu ce succès extraordinaire. J'ai été finaliste du concours en 1991, un an avant Chamoiseau. Et Chamoiseau, l'année d'après, en 92, l'a eu. Donc, nous avons eu un succès littéraire qui nous paraît un peu incompréhensible. Parce que, bon, on vient des îles, on est loin, on est isolé, on ne connaît personne dans le microcosme.
Et quelle relation vous aviez avec Aimé Césaire ? Il était admiratif, lui, de la créolité ou pas vraiment ?
Alors, j'avais fait un crime de lèse-majesté. J'avais publié aux éditions Stock un livre qui s'appelle « Aimé Césaire, une traversée paradoxale du siècle ». Je critiquais vraiment certaines de ses positions. Et j'avais été tout de suite au nid en Martinique, parce qu'il ne faut pas toucher au père. Hein. Et jusqu'à ce que, 5 ans ou 6 ans avant sa mort, à l'université, dans mon bureau, je reçois un appel. Je suis la secrétaire de Monsieur Césaire. Il vous convoque à son bureau demain matin. Et par curiosité, je souris, je dis « Ok, à quelle heure, etc. Vous venez, etc. » Par prudence, j'emmène deux copains à moi en disant je vous amène un appareil photo parce que faut quand même immortaliser ça. Parce que si je dis que j'ai rencontré Césaire, personne ne va me croire. Et il m'a reçu. La première chose qu'il m'a dite, ça m'a sidéré. Il m'a dit, vous au moins, vous m'avez lu. Parce que dans le livre critique, je cite le discours là. Et tous les gens qui sont autour de lui, en fait beaucoup, c'est des gens qui profitent de son aura, mais c'est pas des gens qui connaissent très bien son œuvre. Et il s'est montré très amical, très ouvert. Il m'a dit, mais c'est normal, il faut que les jeunes, alors j'étais jeune à l'époque, c'était 92, hein, ou 91, je ne me rappelle plus, C'est normal que les jeunes critiquent les anciens. Enfin, il s'est montré absolument. J'étais très étonné. Je l'ai revu 2-3 fois après. Et puis après, sa santé s'est dégradée. Mais je ne regrette pas de. J'ai failli le matin du premier jour ne pas y aller. Je me suis dit, bon, tu as écrit un livre, tu as démoli le mec, tu vas dans son bureau. Peut-être qu'il a quelques sbires à côté qui vont te faire la peau. C'est très dur chez nous, hein. Des fois, en campagne électorale et tout, ils sont partis des pas très tendres. D'ailleurs, on m'avait interdit de venir à Fort-de-France et pendant 3 mois, j'habitais le sud de la Martinique et je faisais un détour pour aller à l'université. Je n'allais pas du tout à Fort-de-France de peur qu'on me cherche des noises, quoi. Bon, au fil du temps, les gens ont oublié ça, mais il y a des gens qui s'en souviennent et qui me disent « Toi, mon petit salaud, tu as écrit un livre contre le père. » Et bon.
Merci beaucoup, Raphaël Confiant. On marque une pause avant de s'attaquer au 3e épisode.
D'accord.
Pour réécouter ma parole, tapez le portail des Outre-mer et cliquez sur l'onglet radio.